Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est le jour ou jamais pour vous faire un aveu, vu que notre invité Cédric Clapiche vient nous parler d'une masterclass qu'il s'apprête à donner sur Buster Keaton, ce génie. J'ai une vraie passion pour les films muets. Vous savez, je signale ça à nos plus jeunes auditeurs, ces films qu'on tournait avant l'invention du parlant. Je vais même jusqu'à couper tout à fait le son pour profiter pleinement du spectacle sans être distrait par ce piano, souvent ragtime, ou cette musique forcément guillerette qu'on se croit toujours obligé de rajouter. Deux raisons à cela. Le silence d'abord. Comme le disait si justement l'abbé Dinoir en 1771, il ne faut parler que si cela vaut mieux que le silence. Oh oui, c'est bon le silence. Et je mesure tout le paradoxe de mon propos, alors que je passe ma vie à parler dans le poste et que je suis souvent le premier à me demander si ce que je raconte vaut tellement mieux que le silence. Mais enfin, et c'est là mon second point, en matière de cinéma, je raffole de l'absence de dialogue qui me permet d'admirer pleinement l'art du geste, poussé à un tel point de perfection par les Chaplin, Lloyd et autres Keaton donc. Et pour aller au bout de mes confidences, je vous avouerai aussi que j'adore écouter les films sans l'image, ce qui, j'en conviens, pourrait s'approcher d'une définition de la radio, en tous les cas une radio idéale, celle qui vous prend par la main et l'oreille pour vous emmener promener sur les chemins de l'école buissonnière, comme on dit à France Inter. Bref, films muets, cinéma, radio, c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui avec Cédric Clapiche.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Alors, quand je dis masterclass, je manque un peu de précision parce que la raison de votre présence dans le studio de Popopop, c'est effectivement une masterclass, mais une masterclass que vous allez donner dans le cadre du festival Play It Again, un festival qui parle de films d'hier, aujourd'hui. Et le film dont vous allez nous parler aujourd'hui est un film d'hier puisqu'il s'agit des lois de l'hospitalité de Buster Keaton. Suis-je clair?
Absolument, moi ouais. J'ai compris en tout cas.
Ouais. Charline, vous avez compris?
Non. Mais c'est pas de votre faute, je crois.
C'est parce que vous êtes une femme.
Ouais. Non.
Vous allez nous en parler ici, maintenant, sur France Inter, avant d'en parler ce soir dans le festival. Voilà, j'ai bien résumé. À mes côtés, celle qui a beaucoup à dire sur le cinéma muet, je sais, c'est paradoxal. Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Cédric. Mais c'est vrai que vous me laissez sans voix, en revanche.
Cédric Clapiche, avant de parler des films d'hier, aujourd'hui, sachez qu'ici, il existe une question que j'ai posée hier, que je poserai à nouveau demain. Et cette question, aujourd'hui, c'est...
Pour vous, Cédric Clapiche, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses clapisantes, cédriciennes, auberge espagnolite, castetanesque, chinoisante ou russe poléeuse, mais parmi mes préférés, il y a celle de Nicolas Maury, alias Hervé, l'assistant de 10%, série dont vous êtes en partie réalisateur, mais aussi directeur artistique.
Pour moi, la pop, c'est déjà un bruit. C'est un bruit de débouchage de bouteilles, et puis, voilà. Et puis c'est aussi une façon, je dirais plus générale, d'être provoquant avec douceur et avec générosité. Mmh. Et je dirais que c'est ça la beauté des êtres pop, c'est une révolte sourde et qui avance pas avec le décorum des révoltés. C'est ça que j'adore.
Voilà pour Nicolas Maury, mais pour vous, Cédric Clapiche, c'est quoi la pop culture?
Pour moi, c'est ce qui rassemble Andy Warhol, Sheila et les Pink Floyd. C'est-à-dire que c'est de l'art populaire. Mm-hmm. C'est quelque chose qui fait que c'est intéressant. On dit, en tout cas, il y a une recherche esthétique, mais c'est populaire.
Pourquoi Sheila? Pardon.
Je sais pas pourquoi.
Parce que l'école est finie.
Ouais.
Mais oui.
Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, c'était une icône pop. Voilà, c'est pour ça.
C'est pas un jugement, hein, c'est une vraie interrogation.
Peut-être que Cédric est amateur de couettes.
Oui, peut-être.
Non.
J'aime.
Bah oui, on aime tous les couettes. D'ailleurs, on est ravis que vous ayez des couettes aujourd'hui, Charline. Bien. On parlait de 10% à l'instant, et c'est justement le moment de vous diffuser le message de Dominique Besnéard, le producteur de la série, qui a essayé de nous joindre ce matin. Écoutez.
Allô, bonjour, c'est Dominique. Dominique Besnéard, oui. Alors je voudrais laisser un mot à Cédric Clap. Ah bon bah je vais appeler Bruno Dumont.
Bon, c'est moche de se moquer, mais c'est vraiment moche, vraiment recul de rien dans cette émission. Cédric, cette pop, cette culture et cette culture pop, on va en parler avec vous dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le dernier morceau de Nick Waterhouse, Song for Winners.
Thank you.
Song for Winners, la chanson pour les gagnants. Oui, nous sommes bilingues. Cet extrait du dernier album de Nick Waterhouse. Vous écoutez.
Que vous traduisez comment, pardon?
La maison de l'eau. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un réalisateur melting pop, la preuve avec son pop portrait. Alors, un pop portrait, c'est votre portrait, bien sûr, Cédric, mais.
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Aujourd'hui, nous recevons un réalisateur qui peut revendiquer la paternité de quelques bandes de ciné à laquelle on aurait bien aimé être intégré. Pour faire du team building, En Marche, quelle prémonition, avec Lucchini, dans Rien du tout. Pour retrouver des cool kids, les copains de lycée, comme dans Le Péril Jeune, et éventuellement mieux les protéger. On n'aurait pas détesté non plus, enfin surtout Antoine, investir le 12e arrondissement, y perdre son animal de compagnie et s'entendre dire par Romain Duris, son classe Tessin. Je me suis jamais remise de cette recul. Remarquable compliment émis dans Chacun cherche son chat. Duris qu'on aurait bien suivi en Erasmus, dans l'auberge espagnol, en voyage dans les poupées russes ou à New York dans Casse-tête chinois. Avec lui, on irait bien dans le futur aussi découvrir une descendance qui aurait les traits de Belmondo, comme dans Peut-être. Et évidemment qu'on a rêvé de faire des dégustations de vin avec François Civil, Pio Marmaille, Anna Girardot, enfin c'est surtout Antoine, et même d'intégrer comme stagiaire l'agence ASK puisque notre invité a réalisé quelques épisodes de 10%. Bref, aujourd'hui nous recevons un réalisateur qu'on embaucherait bien pour améliorer notre réalité.
Merci Charline.
Merci, c'est gentil de dire
manque
ça.
Il ne manque rien à l'appel.
Non.
S'il en manque quelques-uns, mais fallait.
Le saviez-vous, Cédric, après l'auberge espagnole, les inscriptions au programme Erasmus ont doublé.
Je savais.
Vous savez ça?
On m'a dit ça l'année suivante, après le film, ouais.
Ouais. Vous êtes content ou...
Ah ben, c'est une des grandes fiertés de ma vie. C'était incroyable d'avoir une implication dans la vie réelle des gens. Donc, c'est sûr que c'est assez rare quand on fait un film que ça ait une implication.
Oui, ça risque pas de nous arriver à nous.
Hein. Non. Personne nous suit, nous, hein, sur rien.
On continue quand même. Alors, continuons l'exploration de votre melting pop culture. Cédric Clapiche, c'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, vous avez choisi la rubrique à braque, une série de BD créée en 68 par Gottlieb pour le magazine Pilote. Charline, si je vous dis l'impact de la rubrique sur les gens de ma génération, ça ne vous dira pas grand-chose, vu qu'en 68, vous n'étiez encore qu'une hypothèse. Mais dites-nous quand même de quoi il ressort.
J'ai rattrapé par la suite, patron. Une très belle collection de récits sur tout et sur rien, des contes de fées, des études sur le monde animal, des pensées philosophiques sur la vie, le tout incarné par des personnages culte et récurrent, Isaac Newton, la coccinelle, le professeur Burp, le commissaire Bougret et son fidèle adjoint Charol.
Cédric, je vous propose d'écouter Marcel Gottlieb en personne nous en dire un mot de sa rubrique à braque avant que vous fassiez part de votre engouement.
Il y a ce côté dérision de l'instruction et de l'éducation parce que finalement mes années scolaires n'ont pas été très joyeuses et donc j'ai l'impression de me venger un peu, mais en même temps de faire de tout ce qu'on nous apprenait en ces époques lointaines, d'en faire la parodie.
Alors, Cédric Clapiche, président de l'amicale Marcel Gottlieb. Pourquoi donc?
C'est juste, je me suis rendu compte, en fait, j'ai un fils qui a 11 ans et je lui ai dit « tu devrais lire ça récemment ». Et je me suis rendu compte en fait que c'était très marquant pour ma culture à moi, que l'humour, ou enfin la façon de rigoler des choses est beaucoup issue des heures passées à lire et relire Gottlieb. Et je vois à quel point les gens, effectivement, de ma génération ou même après, ont cet humour-là. Et c'est vraiment un humour qui est assez spécifique, en fait, un truc assez absurde. Voilà, Gottlieb, c'est quelqu'un qui est capable de dire « accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Et je me dis, voilà, quelqu'un qui invente cette phrase, c'est forcément quelqu'un d'intéressant.
Comment il réagit, votre petit de 11 ans?
Pareil que moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, il aime comme j'aimais. Parce que très souvent, quand on dit à ses enfants, tu devrais lire ça, il y a pas souvent ça marche. Il y a des choses vraiment qui vieillissent mal ou qui traversent pas le temps. Et là, ça marche. Donc, je vois à quel point il reçoit ça de la même façon et ça me fait vraiment plaisir.
Faites gaffe parce qu'il y a quand même des trucs assez salés dans la rubrique à braque.
Absolument.
Blanche-Neige et les sept nains, par exemple.
C'est vrai. Non, mais il y a tout ça.
Allez, nous le traumatiser.
Non, mais je pense que je l'ai lu au même âge, donc j'ai été traumatisé comme lui.
C'est bien ce que je dis. Pour le film, vous avez choisi La soupe au canard avec les Marx Brothers, un film réalisé par Léo McCarré en 1933. Charline, saviez-vous que Groucho Marx a animé un jeu télé à la fin de sa vie?
Mais non, Antoine, je ne le savais pas.
Eh bien, je vous l'apprends. Et même un jour, il a demandé à une candidate ce qu'elle faisait dans la vie. Elle lui a répondu « Des enfants, j'en ai 7 ». Il lui a dit « C'est beaucoup ». Elle lui a répondu « J'aime beaucoup mon mari ». Et savez-vous ce qu'il lui a dit ?«
Non.
Moi, j'aime beaucoup mon cigare, mais je le sors de temps en temps ». Bon, la soupe au canard, donc.
Rien ne va plus en Frie-Denis, encore une fois, les caisses sont vides. Encore une fois, le Conseil des ministres fait appel à la richissime Madame Tisdale, qui en échange de son aide demande que le gouvernement se dote d'un nouveau chef. En Sylvanie, le pays voisin, qui avait des vues sur la Frie-Denis, la nouvelle n'est pas très bien accueillie.
Oh, Your Excellency, I must speak to you.
I'll see you at the theater tonight. I'll hold your seat till you get there. After you get there, you're on your own.
Hello? Hello, yes? No, he's not in yet. All right, well, goodbye. That was for you again.
I wonder what ever became of me. I should have been back here a long time ago.
They got gone, we got gone, all got children got gone.
Les Marx Brothers, la soupe au canard, vieille obsession de Cédric Clapiche, puisque si mes informations sont bonnes, votre mémoire de maîtrise de cinéma au début des années 80 portait en partie sur les Marx.
Absolument. Ouais, non, je vouais un culte aux Marx Brothers et je le voue toujours. Et non, c'est formidable à quel point c'est totalement n'importe quoi, mais c'est assez scientifique dans le n'importe quoi. Donc il y a vraiment un grand sérieux en fait de parler comme ça, de raconter des histoires comme ça. Et pareil, ça vieillit bien, c'est-à-dire qu'on le regarde aujourd'hui et on rigole toujours autant, quel que soit l'âge qu'on a. Quoi.
La soupe au canard, vous le recommandez pour ceux qui n'ont pas encore vu de Marx, plutôt que Une nuit à l'opéra ou...
En fait, c'est tous, hein, franchement, ouais. Parce que moi j'adore Go West, je crois que c'est Chercheur d'or en français, La soupe au canard, enfin franchement tous, Une nuit à l'opéra, une nuit au cours, un jour aux courses, tous sont vraiment super, c'est ceux de la fin qui sont les moins bien, mais je recommande, oui, moi je disais à l'époque que c'était comme le dentiste, les Marx Brothers, il faut y aller au moins une fois par an.
Vous l'avez montré à votre fille de 11 ans ?
Ouais.
Et alors ?
Mon fils, pareil, ça marche. Non, c'est drôle parce que, comme toujours, je lui dis tu devrais regarder ça, il m'a dit non, c'est un vieux film, ça m'intéresse pas. Et puis il a vu, et ensuite il a voulu tous les voir, donc il est devenu fan.
Ça l'a perturbé ?
Non.
Bien, Cédric Clapiche, votre série culte, c'est une série de Ricky Gervais qui s'appelle Extra. Charline, Extra, c'est Extra, non?
C'est probablement la série la plus drôle du monde, ben oui, contrairement à ce lancement.
D'accord, okay.
Ricky Gervais est Andy Millman, comédien au talent discutable et discuté, et qu'on suit sur des tournages où il est figurant. Dans chaque épisode, un faux tournage avec de vraies stars dedans, parmi lesquels Kate Winslet, Ben Stiller, Daniel Radcliffe, Robert De Niro ou encore David Bowie.
Little fat man who sold his soul. Little fat man who sold his dream. Chubby little loser. Chubby little loser. National joke. Pathetic little fat man. No one's bloody laughing. The clown that no one laughs at. They all just wish he'd die. He sold his soul for a shot of fame.
David Bowie dans Extra, la série cultissime de Ricky Gervais. Pourquoi est-ce que c'est extra?
Parce que, alors c'est formidable, j'imagine que c'est Ricky Gervais qui a écrit les paroles de la chanson pour David Bowie, qui donc se traite de loser et de minable. Donc c'est assez classe de demander à David Bowie de chanter une chanson pour se traiter de minable. C'est ça, en fait, c'est sur comment on est tous minables. Et le pitch, en fait, de cette série, c'est quelqu'un qui est figurant et qui essaye de dire une phrase à travers les différents films qu'il va faire. Et donc, il essaye à chaque fois de se faire copain avec David Bowie, il y a un épisode extraordinaire avec Kate Winslet ou Daniel Radcliffe. Et c'est vraiment super comment ce type qui est toujours derrière, qui est caché, qui va jouer le figurant et qui essaye d'être plus et qui n'y arrive jamais. Et donc, c'est vraiment sur le fait d'être minable, disons.
Vous l'avez montré à votre fils de 11 ans ?
Pas encore.
Bah alors.
Mais non, je perds du temps là.
Ah bah oui, ça va peut-être le perturber.
Bon, pour celui finir... avec Daniel Radcliffe est très bien pour commencer. Hein.
Bah oui,
ou Orlando Bloom est très bien aussi.
Bien, terminons cette pop-liste avec votre chanson, Cédric Clapiche, et cette chanson, c'est celle-ci. Oh, les filles du groupe Au Bonheur des Dames, dirigé par Ramon Pipin, que nous recevions il y a encore peu de temps. Alors pourquoi dans toute la musique du monde, au bonheur des dames et aux les filles?
Non, c'est-à-dire que quand vous m'avez posé toutes ces questions de savoir voilà quel est le livre, quel est la chanson, on peut jamais choisir, il n'y a pas une chose qui se détache, mais ça c'est vrai que c'est une chanson qui à chaque fois me fait sourire, c'est-à-dire que il y a un truc con et c'est vrai que moi j'aime ce qui est con. Mm-hmm. Et je trouve que c'est important la connerie.
Bienvenue chez nous.
Ouais ouais, non mais c'est pour ça que je suis venu.
Surtout, est-ce que c'est réciproque?
C'est-à-dire
est-ce que la connerie vous aime?
Ah, je pense, oui, ouais, non, oui. Je suis enduit de conneries. Et et du coup, c'est vrai que ça, à la fois, ça dit des choses essentielles. J'aime les filles, oui, c'est vrai. Mm. Et puis, ça le dit d'une façon qui est agréable, quoi. C'est encore une fois, ça fait sourire, quoi.
Vous avez fait écouter au petit?
Pas encore. Je dis des conneries, justement. Il a écouté, il aime bien, ouais, ouais.
Mais il a pas encore l'âge d'aimer les filles.
L'impression que ça a déjà commencé.
Ça arrive.
Ouais.
Il y a pas d'âge.
Oh, Charline, je vous en prie. Bon, enfin, je résume. Gottlieb, les Marx Brothers, Ricky Gervais, au bonheur des dames, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Little fat man.
Oh, your excellency, I must speak to you.
Happy little loser.
After you get there, you're on your own.
He's got no style. He's got no grace.
J'ai l'impression de me venger un peu de tout ce qu'on nous apprenait en ces époques lointaines.
Hello? Hello, yes?
See his partner's face.
No, he's not in yet.
C'est du Cédric Clapiche compressé façon César.
Voilà, c'est tout moi. Si on essaye de voir à quoi je ressemble, ça ressemble à ça.
Vous y retrouvez?
Oui, complètement. Ouais.
Très bien. Alors, passons à l'étape suivante. Il va être question de cinéma et de l'Auberge espagnole 2.0 dans la suite de Pop Pop Pop. Mais avant d'en parler, écoutons un morceau de la BO du film qui fête cette année ses 20 ans.
Pop Pop Pop, Antoine Decaune sur France Inter.
We'll be right back. Daft Punk dans Pop 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 sur France Inter avec ce morceau aérodynamique extrait de la BO de l'Auberge Espagnole réalisé par Cédric Clapiche, notre invité d'aujourd'hui. Et oui, tout se rejoint. Si vous êtes ici aujourd'hui, Cédric, c'est pour parler d'hier. On est bien d'accord?
Absolument.
Ok. Alors vous êtes le parrain de la 5e édition du festival Play It Again, un festival qui fait vivre dans près de 200 salles en France les films d'hier entre aujourd'hui et le 9 avril. Votre but, c'est de donner envie aux gens d'aller voir des films plutôt que de jouer à FIFA ou de poster des photos d'eux avec des oreilles de chat sur Instagram. Nous sommes encore d'accord.
Absolument, je trouve que ça peut paraître bizarre, mais ça peut être plus intéressant d'aller voir des vieux films. Ouais.
D'autant que vous avez fait partie des spectateurs compulsifs. Vous avez eu à 20 ans votre période de 3 à 5 films par jour. Est-ce bien raisonnable, docteur? On ne parle pas de fruits et légumes, là.
Certainement pas raisonnable, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. Je devais avoir, 20 ou 21 ans. Et ça me sert encore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films que j'ai vus à cette époque-là, que je n'ai pas revus, et qui m'ont marqué. C'est ce qu'on appelle les vieux films, les grands classiques, parfois des films muets. Donc, a priori, ça peut paraître rebutant pour plein de gens, mais moi, ça m'a vraiment nourri, quoi.
Vous avez fait ça dans quel cadre? C'était le Cinémathèque
J'étais étudiant en cinéma à Sancier, à Paris 3, et il y avait un ciné-club, donc j'y allais deux fois par jour, j'allais au cinéma par ailleurs. À l'époque, c'était le début de la VHS, donc il n'y avait pas encore le côté on peut voir des DVD chez soi ou la VOD. Mais là, justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé le site lacinéthèque.com, pour que les gens puissent avoir accès aux films d'avant l'an 2000, et où on a une sélection de vieux films.
Vous dites que ce qui vous sert le plus dans votre travail au quotidien, c'est d'avoir vu des films, beaucoup de films, et pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des films qui vous ont touché, même parfois longtemps après les avoir vus. Combien de temps l'infusion en moyenne?
Justement, moi j'ai l'impression que c'est ça qui juge un bon film, c'est celui qui reste longtemps.
Donnez-moi un exemple.
Je parlais tout à l'heure des Affranchis de Scorsese, donc c'est le premier qui vient. Ouais. C'est vrai que ce film-là, quand je l'ai vu, j'aurais pu le dire par cœur. Je me souvenais de toutes les répliques, je me souvenais de tout, contrairement à certains films qu'on voit et deux heures après, on sait même pas quel film on a vu. Donc ça arrive plus souvent d'oublier quelque chose que de le garder en soi très longtemps.
Pour autant, est-ce que vous vous considérez comme cinéphile? Parce qu'on sait que vous n'aimez pas trop le mot qui vous semble exempt de toute notion de plaisir un peu trop sérieux. On dit quoi dans votre cas? Et surtout, est-ce que c'est la notion de jugement qui vous dérange un peu?
Non, c'est le côté, c'est ce qu'on appelle les rats de cinémathèque ou les rats de bibliothèque. Et le côté cinéphile, il y a un côté comme ça poussiéreux. Et moi, je trouve que, enfin, quand je vois le site lacinéthèque.com, j'ai l'impression que c'est un magasin de bonbons, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté friandise. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est plus du côté du plaisir où je me dis, voilà, voir Jeanne d'Arc de Dreyer ou Hitchcock ou Godard ou Bergman ou Antonioni, c'est du côté du plaisir.
Et justement, donnez-nous un aperçu de ce festival Play It Again. Qui y a-t-il au programme?
Alors, il y a plein de choses. En fait, c'est organisé par des gens qui restaurent les films. Donc, c'est les films qui ont été restaurés cette année. Il y a des comédies, Embrasse-moi idiot, par exemple, de Billy Wilder, dont je suis totalement fan. Invasion Los Angeles de John Carpenter. Gare centrale de Youssef Chahine, Monica de Bergman, La moindre des choses de Nicolas Philibert, Le pornographe de Imamura, 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick, La Strada de Fellini. C'est très très diversifié.
Ouais. C'est très ouvert. Ouais. Ça va vraiment du film de genre ou le film du milieu, comme disait Pascal Ferrand, jusqu'à 2001, quoi.
Absolument.
C'est très bien. Alors, vous militez pour forcer, je mets ça entre guillemets, forcer un peu les gens qui ne connaissent pas Godard, Fellini ou Cassavetes à découvrir ces réalisateurs. Car selon vous, de la même manière, si personne ne vous avait obligé, vous, à lire La Fontaine, Molière ou Proust, vous seriez passé à côté. Un peu comme l'huile de foie de morue, ça pique au début, mais on sait que c'est bon pour la santé après.
Oui, parce que franchement, personne n'a envie de lire Molière ou Racine. Voilà, qu'un prof de français vous pousse à le faire. Et après, on peut adorer ça ou trouver ça fondamental. Et ensuite, relire ou passer sa vie à étudier Don Juan. Donc, forcément, il faut être poussé à être surpris. Et c'est vrai que, par exemple, là, il y a 2001 de l'Odyssée de l'espace. S'il n'y avait pas eu ce film-là, il n'y aurait pas eu Star Wars, il n'y aurait pas eu tous les films qui se passent dans des fusées, sur des planètes. Et c'est des gens qui ouvrent des voies, et ces films-là, il faut les connaître. Donc de la même façon qu'il faut connaître la littérature du passé.
C'est important de connaître ces classiques, y compris quand on n'est pas cinéaste. À quoi ça sert ?
Ben, ça sert à connaître La Fontaine, c'est-à-dire que on récite tous comme des débiles le corbeau et le renard, mais c'est vrai que le fait que de savoir que cette personne a inventé des fables, la notion de fable, d'avoir ce langage-là où en même temps il se moque des puissants, où c'est une espèce d'anarchiste de son époque, et que avec la langue il arrive à voilà faire réfléchir et avoir des voilà ce qu'on appelle une fable, c'est important de le connaître et c'est important pour tout le monde.
Vous dites aimer aussi bien Citizen Kane que Rabbi Jacob, mais alors attendez. Est-ce que c'est pas là tout simplement une nouvelle définition de la pop culture ?
Absolument. Et c'est on rejoint Sheila et Pink Floyd. Ouais.
Le grand mix, quoi. On peut aimer les deux.
Ben oui, je sais pas pourquoi en France, la culture est du côté du sérieux et donc du chiant. Par exemple, la musique, on vous dit, il faut apprendre le solfège avant de jouer de la musique. Il y a plein de pays dans le monde, en Irlande, en Afrique, où on n'apprend pas le solfège et on fait de la musique. Et où, en France, je sais pas pourquoi, il y a l'idée du truc chiant d'abord. Et je n'ai jamais compris pourquoi.
Il faut souffrir.
Je crois que c'est ce truc-là, c'est qu'on pense qu'il faut souffrir pour avoir une espèce de jouissance derrière, mais non, on n'est pas obligé de souffrir, quoi.
On est complètement sur un peuple de maso, disons-le. De tous les films que vous avez vus et aimés, lequel vous a le plus servi ou influencé dans les 13 que vous avez réalisés ? Je sais la question
de, difficile. De mes films à moi ?
Ouais. Dans ceux que vous avez vus, lequel vous a le plus influencé ou marqué ?
Je veux dire, de films...
Des films que vous avez vus,
qui ne sont pas
comme spectateurs, qui ne sont pas les vôtres, lequel vous a le plus marqué en tant que réalisateur?
Bon, je dis souvent que c'est Fellini qui m'a le plus influencé, ça se passe entre Fellini et Woody Allen. C'est des gens qui, d'une part, m'ont appris à vivre en tant que personne, mais en tant que réalisateur aussi, forcément, c'est des gens qui me font rêver parce que j'ai l'impression de ne pas être au niveau, et donc du coup, pour moi, c'est une espèce d'idéal d'essayer de leur ressembler. Donc, voilà, je pense que c'est des gens qui sont moteurs pour moi.
J'annonçais Buster Keaton tout à l'heure en début d'émission. Dans le cadre du festival Play It Again, vous vous apprêtez à parler du film Les lois de l'hospitalité de Buster Keaton. Je rappelle l'histoire, les clans Canfield et McKay sont rivaux. Non mais attendez, en fait c'est vous qui allez en parler, je vous laisse nous le pitcher.
Oui, c'est grosso modo un peu la même histoire que Roméo et Juliette, c'est deux familles qui se détestent, et puis forcément les descendants de cette famille, un garçon et une fille, vont se rencontrer et s'aimer, et du coup il va y avoir le décalage entre l'inimité des deux familles et puis l'amour de ces deux personnes. Et là, ce qui est particulier, c'est que c'est donc un film muet avec Buster Keaton, et ce film est vraiment l'ancêtre du film d'action, c'est-à-dire que c'est le film qui va permettre à Indiana Jones d'exister, c'est-à-dire qu'il y a tout le langage, enfin Buster Keaton c'est un cascadeur, c'est quelqu'un
qui... Sans les effets spéciaux,
et d'ailleurs je crois qu'il a failli mourir pendant ce film,
deux reprises.
Parce qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas de technique pour faire semblant, donc c'était du vrai, quoi.
Alors attendez, on va en reparler de Buster Keaton, mais maintenant, Cédric, dites juste bande-annonce pour la lancer.
Bande-annonce.
Scène est vraiment irrésistible.
Les dialogues sont formidables.
Ah. Faut que je le rappelle, c'est un film muet. Alors, d'abord, pourquoi ce Keaton-là en particulier ?
Alors ça, c'est celui qu'il passait, qu'ils viennent de restaurer. Et c'est d'ailleurs magnifique de voir comment justement un vieux film peut être moderne avec l'image. Et les images sont extraordinaires. Et je crois que c'était 1913 ou 1923, pardon, le film. Et du coup, il y a vraiment ce côté très très ancien, quoi. Ouais. C'est vraiment, il raconte comment il doit prendre un train pour aller dans l'Ouest. Et le train, c'est vraiment une espèce de diligence sur rail. Déjà, le train, il paraît totalement archaïque.
Et puis, alors que c'était la réplique d'un vrai train qu'il avait.
J'imagine,
fait. Ouais, exactement. Parce que c'était un fou furieux.
Ouais, Buster Keaton, c'est un cascadeur, c'est un cascadeur drôle, et donc il a le côté Jackie Chan, si on doit parler aux gens d'aujourd'hui, pour les gens qui aiment Chinese Zodiac. Il y a ce côté de faire rire avec des choses acrobatiques ou avec des choses dangereuses.
Drôle mais imperturbable, c'est l'homme qui ne sourit jamais.
L'homme au regard neutre, ouais. Et c'est vrai qu'on rit d'autant plus que lui reste impassible, et donc la terre peut s'écrouler, il peut y avoir un tremblement de terre, une cascade dans laquelle il se noie, de toute façon il va rester stoïque dedans, et c'est assez drôle toujours ça.
Vous l'avez montré à votre fils de 11 ans ?
Pas encore.
Ah mais ça s'impose.
Ça va le perturber.
J'espère. J'espère, mais dans le très bon sens. Ouais. Non, mais en fait, parce que justement, enfin, votre démarche est très saine. Il faut aller revoir ce cinéma. Il faut. Je reste au cinéma muet, hein, mais ouais. les Chaplin, les Harold Lloyd, les Keaton, évidemment.
Tout cela, Harold Lloyd, qui est sans doute le moins connu par rapport à Chaplin et Keaton, c'est extraordinaire. Et puis, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'on pense que ça va être chiant parce que c'est muet, mais ça n'est pas chiant. Mmh. C'est vraiment formidable.
Mais vous faites aussi un travail de passeur, puisque depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que certains des films que vous avez cités sont la matrice d'autres beaucoup plus actuels et qu'il faut connaître.
Ouais. Non, c'est vrai que tous les gens qui font du cinéma savent que on a besoin de ceux qui nous ont précédés pour pouvoir avancer. Donc ça c'est vrai et franchement je vois à quel point là on discute beaucoup entre réalisateurs à cause de cette plateforme de VOD. On est nourri de ceux qui nous ont précédés et très souvent vous citiez Cassavetes ou Hitchcock ou Godard. On a besoin de ces gens-là pour nous avancer.
Pouvez-vous expliquer, Cédric, avant d'en finir avec Buster Keaton, hélas, à ceux de nos auditeurs qui l'ignoreraient encore, puisque n'oublions pas, nous sommes sur
France Inter.
En quoi Buster Keaton était un génie?
Je pense qu'il a inventé la cascade, vraiment, même si Harold Lloyd était pas mauvais de ce côté-là. Il y a une histoire de langage cinématographique dans les lois de l'hospitalité. Il y a vraiment le fait de déjà raconter le Grand Ouest et de partir à l'Ouest et d'opposer ce qui est citadin par rapport à ce qui est le monde sauvage qui se passe à l'Ouest. Et c'est au niveau narratif en fait que j'aime beaucoup Buster Keaton parce qu'il raconte des choses et il essaye de voir qu'est-ce qui est drôle. Là par exemple dans un conflit où les gens se détestent, il se dit comment il y a de l'amour possible alors que les gens se détestent. Et c'est vraiment ensuite ce qu'on va voir dans les films de guerre par exemple quand il y a deux pays en guerre, de savoir comment on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est dans le pays opposé. Et donc c'est quelqu'un qui raconte très très bien ça parce qu'il le raconte avec son corps. Et c'est ce qui est beau dans l'humour physique qui est véhiculé par Chaplin aussi, c'est comment sans mots le corps parle quoi. Il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire avec des décors et avec des gens dans un décor.
Et une immense poésie qui se dégage de tout ça.
Absolument. Ouais.
Moi, je suis très, 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 très sensible à Buster Keaton.
Parce que vous êtes très poétique vous-même.
Ça doit être ça. Merci, Charline. Nous allons reprendre cette conversation dans quelques instants. Mon cher Cédric, pour l'instant, c'est l'heure des Pop News. Est-ce que vous savez faire ça?
Bon, oui.
Évidemment.
Oui. Je ne savais pas que je savais
le mec qui a fait l'auberge espagnole. Si c'est pas ouvrir une bouteille. Bon, les Pop News.
Attention, information culte et confusante. On vous l'a dit ici, Chucky, la poupée maléfique, va faire son retour au cinéma dans un film avec Aubrey Plaza. Et cette poupée aura une nouvelle voix, celle-là.
Je veux venir avec vous à Alderaan. Il n'y a rien pour moi ici maintenant. Je veux apprendre les voies de la force et devenir un Jedi comme mon père.
Oui, c'est étrange. Mark Hamill, l'inénarrable interprète de Luke Skywalker, prêtera ses cordes vocales à la poupée meurtrière. Résultat sur grand écran dans Child's Play le 19 juin.
Le son que vous entendez est celui qui accompagne les vacances de Tokyo, Denver, Rio et compagnie. Des vacances dont il est précisé qu'elles sont terminées dans le teaser annonçant la saison 3 de La Casa de Papel qui arrivera sur Netflix le 19 juillet.
La mattina mi sono alzato, bella ciao,
Tame Impala dévoile en live un tout nouveau titre. Dans le Saturday Night Live, le groupe australien mené par Kevin Parker a joué cet inédit intitulé Borderline. Après Patience, c'est le deuxième morceau flambant neuf proposé par le groupe depuis 2015 et leur album Currents, l'impatience est grande.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Buster Keaton.
Mais oui, bravo. Bravo, évidemment. Mais quel à propos. Cédric Lapiche, vous restez avec nous. On va continuer à parler de cinéma dans la suite de Pop, 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 juste après Can I Kick It, d'un morceau signé A Tribe Called Quest. We'll be right back.
kick it?
Yes, you can.
Can I 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 kick it?
Yes, you can.
Well, I'm gone. Can I kick it? To all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what live was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove.
Tribe Called Quest, can I kick it? Est-ce que je peux
yes,
taper dedans?
Yes, I can. Yes.
Ok, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie du réalisateur Cédric Clapiche pour faire avec lui un véritable... retour vers le futur cinématographique. Est-ce que vous allez emmener votre fils de 11 ans voir tous ces films, Cédric?
Tous ces films, c'est-à-dire
ceux dont nous parlions, ceux qui vont être montrés.
Oui,
dans
oui,
le festival,
non, non,
je,
c'est un de mes buts. Ouais. Avec ma femme, on aime bien lui montrer les.
Un en particulier. Je vous pose une question très intéressée parce que j'ai un fils de moi-même de 10 ans, donc.
Je sais que cette semaine, je voudrais lui montrer les 7 samouraïs de Kurosawa.
Pas mal.
Parce que je crois que ça ne peut pas ne pas plaire.
Mm-hmm.
Et j'adore ce film, donc j'aimerais bien lui montrer. Donc
on commence par les 7 samouraïs, on enchaînera après par les 7 mercenaires.
Voilà.
Ok. D'accord.
Vous voulez monter un centre aéré, peut-être, non? Avec un.
Charline. Bon, Cédric Clapiche, après avoir parlé aujourd'hui d'hier, parlons un peu de demain. J'ai une question théorique. Si vous deviez adapter l'Auberge espagnole en série, imaginons, vraiment un cas de figure. D'abord, comment est-ce que vous vous y prendriez et quel regard portez-vous aujourd'hui sur la jeunesse par rapport à il y a 20 ans?
Alors justement, ça serait intéressant parce que la jeunesse a changé, l'époque a changé. Mine de rien, ça va faire 20 ans que j'ai fait l'Auberge espagnole. Mm-hmm. Donc forcément, tout a changé, et notamment l'Europe a changé. On voit bien avec le Brexit à quel point les Anglais avaient pas vu que le monde avait changé. Et du coup, c'est intéressant de se poser ces questions-là, parce que ne serait-ce que dans l'Auberge espagnole, il y avait déjà des téléphones portables et il y avait déjà Internet, mais c'était vraiment archaïque, quoi. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ça bouleverse le quotidien des gens de 20 ans. Donc forcément, ce serait intéressant de faire ça, ouais.
Et leurs engagements sont différents aujourd'hui?
Complètement, parce que
la préoccupation environnementale est peut-être plus présente qu'il y a 20 ans.
En fait, avant, il y avait un engagement plus politique, et là, aujourd'hui, c'est plus sur l'environnement, sur les causes humanitaires. Et du coup, c'est vrai qu'on voit ça avec la jeune Suédoise de 16 ans, de voir que, voilà, c'est pour les plus jeunes, c'est cette cause-là qui est la plus importante, sans doute. Ouais.
Mais si jamais vous deviez faire cette série, à partir de l'Auberge espagnole, ça serait plutôt quoi? Une suite, un spin-off, un préquel? Ça parlerait des aventures des enfants de
oui, c'est de ça, ça serait plutôt ça, à mon avis. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la suite sur, effectivement, les enfants. Moi, enfin, l'inspiration, c'est ce qui m'arrive, c'est que moi j'ai un fils aussi de 21 ans qui est actuellement à Toronto, et donc c'est pas Erasmus, mais c'est comme Erasmus. Et là, le fait que en septembre il soit parti, je me suis dit je vais pas l'accompagner à l'aéroport parce que je vais ressembler trop à mon film. Mais c'est très bizarre cette sensation que la roue tourne et que voilà, maintenant c'est la génération d'après qui part.
Question mode boomerang. Cédric, vous avez déjà entendu cette musique quelque part?
Oui. Et oui, c'est quoi, casse-tête chinois, mais je sais que ça traîne sur France Inter aussi.
Oh, ouais. Ça traîne beaucoup, tous les matins, oui.
Oui, oui, oui. C'est l'émission de Trapenard.
Bon, c'est un hommage que nous rendons ici à notre camarade Augustin Trapenard, qui s'en sert tous les matins. Donc, si vous deviez, je reste toujours dans l'hypothèse, hein, faire cette série, pourquoi ne la feriez-vous pas?
Je me pose la question. Je suis en train de me poser la question.
Non, ça serait vraiment une très bonne idée.
D'accord, non, okay.
Je l'assure. Oui, évidemment. Et alors, avant d'hypothétiquement feuilletonner l'Auberge espagnole, on vous reverra en septembre au cinéma. Quand vous avez réalisé Quelqu'un quelque part et vous avez retravaillé avec Anna Girardot et François Civil.
C'est ça, ça c'est le long métrage que je suis en train de terminer, je suis au montage tel que vous me voyez, et donc c'est un film qui s'appelle Quelqu'un quelque part, et c'est avec François Civil et Anna Girardot qui sont deux célibataires dans Paris. Et donc c'est de nouveau un film sur Paris, parce que ça faisait longtemps finalement que j'avais pas filmé à
après
Paris.
Après les vignes vous revenez. Hein.
Voilà, c'est ça, après le vin et les vignes. Et là, c'était bien agréable de refilmer ma ville, et puis justement de montrer... qu'est-ce que c'est d'être seul et célibataire dans une grande ville comme Paris aujourd'hui?
Et donc, on part du principe que ce sont vos deux nouveaux récurrents, Anna Girardot et François Civil?
Non, pas forcément, mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai eu l'impression, après Casse-tête chinois, qu'il fallait que je tourne une page un peu, que je change à la fois de style d'histoire et d'acteur. Et donc, du coup, j'ai été voir, rencontrer d'autres gens. Donc, il y a eu Pio Marmaille. Et là, effectivement, j'ai repris François Civil et Anna Girardot. Mais c'est juste parce que je les adore, quoi. Et je pense que c'est vraiment des grands acteurs. Là, c'est un peu le moi François Civil,
ouais,
il sort
faux.
Quatre films. donc voilà, je pense que les gens vont s'en apercevoir.
François Civil qui a déclaré vouloir faire une pause, hein, se faire oublier un petit peu après.
Bon, on l'a beaucoup vu après, ouais. Ouais, ça à la retraite déjà.
Vous avez tâté un peu de tous les genres, du long métrage, du documentaire, de la série.
Du court également.
Du court ouais. Aussi bien sûr. Lequel vous donne le plus de satisfaction?
Sans doute le long métrage. Après, c'est vrai que moi j'ai adoré participer à 10%, parce que c'est intéressant de passer d'une forme longue, voilà, quand on fait 8 fois 52 minutes ou quand on fait 1h30 ou 2h, on raconte pas les mêmes choses, et donc c'est intéressant de passer d'un format à l'autre. Je continue, l'année dernière j'ai fait une petite publicité pour la fête du cinéma, et donc c'était un film de 3 minutes et donc c'était un court-métrage, et j'aime bien passer d'un format à l'autre parce qu'on raconte pas du tout les mêmes choses suivant la durée, quoi. Donc j'aime bien passer de l'un à l'autre.
Mais c'est-à-dire que vous avez même fait du court-métrage X, si mes infos sont bonnes.
Absolument.
Le Ramoneur des Lilas. C'est pas donné à tout
fier.
Le monde. Bah, bien sûr.
Vous pouvez nous le pitcher.
C'est en fait quelqu'un qui regarde un film porno en accéléré, et donc on voit les scènes qu'il regarde, et puis enfin voilà, c'est un film fantastique, mais il est visible sur internet un peu quand on cherche. Ça faisait partie du journal du Hard, je crois, de Canal+.
C'était pour Canal, c'était une collection pour Canal+.
Voilà,
Plus,
c'est ça.
Et donc vous êtes vous-même très très client de séries, vous en regardez beaucoup?
J'en regarde beaucoup, j'en regarde moins qu'avant, en fait. Moi, je suis tombé dedans avec Six Feet Under, qui a été un choc. Parce qu'il y avait vraiment la création d'une nouvelle écriture. Je trouvais que c'était pas pareil que Amicalement Vôtre et Chapeau Melon et Bottes de Cuir que je regardais quand j'étais petit. Et du coup, là, il y a eu au moment des Sopranos, au moment de Oz, il y a eu vraiment l'invention des nouvelles séries. Et c'est vrai que là... même si j'aime bien La Casa des Papel dont vous parliez, je vois à quel point ça fabrique quelque chose d'un peu artificiel aujourd'hui. J'aime bien les gens qui fabriquent une nouvelle écriture malgré tout avec cette notion de série.
Bien, écoutez, j'espère, je croise les doigts pour qu'un jour nous puissions avoir une série. Oh là là, l'heure tourne, il est l'heure pour moi, mais oui, de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. J'y vais de ce pas. Siri? Qu'est-ce que tu fais là, Siri? Je t'ai pas appelé.
Je m'incruste dans ton émission, comme tu ne m'appelles plus.
Mais c'est pas le moment, là. Je t'ai déjà dit de pas me déranger quand je suis au travail.
Je t'ai entendu proposer une suite à Clapiche pour l'auberge espagnole, et ça m'a donné une idée.
Ah, t'es réalisateur, toi, maintenant?
Non, pas du tout, mais j'ai juste envie de gagner de la thune pour me barrer de cet endroit miteux.
Mais t'exagères, c'est pas un endroit miteux, c'est ma cave.
Une cave, c'est un taudis humide, dégueulasse,
mais non,
dans lequel je cohabite avec un cochon libidineux.
C'est un pléonasme, ça, Siri. Bon, enfin bref, c'est quoi ton idée?
Pour la suite de Casse-tête chinois, j'ai pensé au téléphone arabe.
Ouais, t'as peu téléphoné. Hein.
Ta gueule, Simon, j'ai la douche écossaise.
T'as peu trop salon de massage, ça.
J'ai pensé aussi à la capote anglaise.
Mais non, on dirait un jeu de mots foireux pour une pub Manix qui joue sur le Brexit.
Bon, Simon, je suis entré en contact avec Jackie et Michel pour une collab et ils sont chauds.
Ah oui? T'as un titre?
Oui, la branlette espagnole.
Ah, tu me désoles, Siri. Tu me désoles, tu nous désoles tous. Même Apple n'en peut plus, là, je te le dis gentiment. Hein. Bon, allez, je te laisse, j'ai pas que ça à faire, moi.
Mais je te promets, il y a plein de fric à se faire.
Bon, allez. Je fais comme si cette scène n'avait pas existé. Pour me changer les idées, on va écouter Philippe Catherine avec la banane.
Le titre, c'est pour expliquer...
Non, il n'y a rien de sexuel, Thierry, rien de sexuel, allez.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Mais bien évidemment que nous allons laisser Philippe Catherine manger sa banane tout nu sur la plage. Cédric Clapiche, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Quel objet pourriez-vous y laisser?
Au début, je pensais à un appareil photo, parce que l'appareil photo, c'est vraiment un objet important pour moi. Mais je me dis que c'est mieux de laisser une photo, du coup.
Oui, une photo de quoi?
Ben, une photo. Moi, j'ai commencé à faire de la photo quand j'avais 12-13 ans. Mmh. Et du coup, et puis je fais un peu des expos de photos, je fais de la photo. Et donc, ouais. Une photo issue des choses que je prends en photo.
Mais une photo représentant quoi?
Moi, c'est souvent la rue, donc la c'est rue. Souvent des rues, des gens dans la rue, et donc là quand j'ai préparé Ce qui nous lie, le film que je tournais en Bourgogne, c'était beaucoup sur des vignerons et des gens en Bourgogne, mm-hmm. dans les vignes. Donc ça peut être soit la rue, soit dans les vignes.
Dans les vignes, ça ira bien avec ma cave.
Okay.
qui se remplit petit à petit. Merci Cédric Clapiche. Play It Again, le festival que vous parrainez, ça commence aujourd'hui jusqu'au 9 avril dans plusieurs salles de France. Ce soir, ce sera au Grand Action à Paris, dans le 5e arrondissement. Ne ratez pas ce festival, allez voir tous ces bons films.
Et on se revoit en septembre.
Et absolument, en septembre, oui, le long, septembre. Oui.
Quelqu'un quelque part.
Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Nicolas Cazot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat. Ah. nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Kélian Youssefi, notre nouveau stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, un invité dont le nom doit rester secret. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme dit Philippe Catherine à la fin de ses tutos bananes sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615. Hop, 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 sur Instagram et Twitter.
Si votre banane est aussi dure que ça, faut pas la manger, elle est plus bonne, Antoine, non? C'est pas possible.